10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Comme tous les vendredis avec l'équipe des engagés, nous avons Zora à la réalisation, notre Fodil Belhamri national qui m'accompagne avec Lou Pineda, donc deux journalistes qui préparent l'émission avec moi et qui font l'ordre du jour, qui permettent de contacter aussi les invités. On a beaucoup d'invités dans les engagés toutes les semaines, comme vous pouvez le remarquer. On fait en sorte d'avoir des invités de choix, de premier plan, parce qu'on a envie de vous faire plaisir. On a encore une émission qui va être riche cette semaine, riche d'informations, riche d'actualités. On a une sortie de Noël Le Graët qui a fait beaucoup parler, le président de la Fédération Française de Football, qui d'ailleurs a fait état d'une décision de mise en retrait, avec un président par intérim qui a été nommé, Monsieur Diallo. On va y revenir au cours de cette émission. On attaquera même notre émission avec Noël Le Graët. Faut-il qu'il démissionne définitivement, Noël Le Graët? Est-ce qu'on en a assez de Noël Le Graët? Est-ce qu'il faut qu'il prenne sa retraite à 81 ans, Noël Le Graët? Ou est-ce que vous estimez qu'il a fait du bon boulot et qu'il peut poursuivre jusqu'à 84 ans, puisque ce sera son âge à la fin de son mandat, normalement prévu en 2024? On aura aussi un sujet qui concernera évidemment les retraites. On ne peut pas ne pas parler de retraite dans le contexte. C'est Elisabeth Borne. La première ministre a présenté son plan d'action, sa réforme des retraites, qui fait beaucoup parler sur les bancs des parlementaires, députés et sénateurs, mais aussi dans l'opinion, les Françaises et les Français, pour beaucoup d'entre eux, sont inquiets. Il y a un mouvement de grève qui est lancé pour le 19 janvier. Va-t-il être suivi? Est-ce qu'on est à l'aune d'un grand mouvement d'ampleur sociale dans le pays, avec une convergence des mécontentements du privé et du public? Donc c'est une question qu'on abordera. On aura évidemment nos rubriques avec Hervé Serroussi, notre avocat marseillais, qui nous parle là de la liberté d'expression avec la sortie de Michel Houellebecq. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire? Est-ce qu'on peut insulter, humilier? Et là, en l'occurrence, ce sont les musulmans, avec des paroles de Houellebecq régulièrement qui portent atteinte à la dignité de nombreux musulmans. Maître Serroussi nous dira la liberté d'expression, quelles en sont ses limites. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas de limite, justement? Donc on verra ça avec lui. Fodil Belhamri nous parlera de Maghreb Actu, avec Maroc, Tunisie, Algérie. Quelles sont les nouvelles récentes que l'on peut retenir de l'actualité de ces trois pays du Maghreb qui nous tiennent particulièrement à cœur sur Beurre FM? Et puis, nous aurons un sujet sensible, c'est l'interview d'Emmanuel Macron sur la relation France-Algérie. Il a donné une interview fleuve au journal Le Point, au magazine Le Point, et on reviendra là-dessus. Donc vous voyez que c'est un programme très riche. Lou Pineda, comment allez-vous?
Très bien, Karim, et vous?
Ça va, en forme?
Super, toujours bon. Pour votre émission.
Vous avez, merci, c'est gentil. Vous êtes très apprécié des gens que vous sollicitez pour l'émission. À chaque fois, ils me rappellent derrière, Lou Pineda, elle est super, elle est extra. Ça fait plaisir, Lou, ça fait plaisir, donc je vous le dis. Et je le dis à nos auditeurs. Comment va Fodil Belhamri?
Très bien, Karim, très très bien.
Bon, la Tunisie, la Kabylie, ça se passe bien?
Ça se passe très bien. Hier, on a fêté Inéyer.
Ah ouais, Inéyer, c'est le nouvel an berbère. Pourquoi ça siffle, madame la réalisatrice?
Parce que c'est ouvert, votre
casque est ouvert. D'accord, bon. Alors, on va attaquer avec Le Graët. Le Graët, Lou, qu'est-ce qu'on peut dire de cette polémique qui est née il y a quelques jours maintenant, avec les sorties répétées de Le Graët, et avec le comportement aussi très très discutable, pour pas dire inacceptable et scandaleux, de ce président de la Fédération Française de Football.
Exactement, Karim. Dimanche soir, Noël Le Graët était l'invité de Marion Bartoli sur RMC. Une interview qui, dans un premier temps, se déroule sur un ton très amical, avec des questions sur la prolongation de Didier Deschamps à son poste jusqu'en 2026. Jean-Christophe Drouet, journaliste dans l'émission, demande alors à Le Graët si ça ne le dérangerait pas de voir Zidane entraîner une sélection comme le Brésil. La réponse ne se fait pas à attendre. Zidane au Brésil, j'en ai rien à secouer. Des propos jugés méprisants et irrespectueux envers la légende du football qu'est Zidane. Sur les réseaux sociaux, l'interview de Le Graët et ses déclarations à l'emporte-pièce se répandent comme une traînée de poudre. 4,4 millions de vues sur Twitter le lundi à midi. Et c'est Kylian Mbappé qui, en défendant Zidane avec un tweet, donne aux propos une résonance mondiale. Dans les heures qui ont suivi l'interview, l'entourage du dirigeant a plaidé dans le journal L'Équipe une maladresse d'expression. Le lundi matin, peu après 10h, Le Graët présente ses excuses à Zidane dans un communiqué envoyé à l'AFP, expliquant que l'entretien de RMC cherchait la polémique. Réuni dans l'urgence mardi en janvier, le comité exécutif de la Fédération française de football a acté la mise en retrait de Noël Le Graët de ses fonctions de président. À l'issue d'une réunion extrêmement tendue, ce dernier a accepté de quitter le devant de la scène jusqu'à la publication du rapport d'audit le 30 janvier prochain. Un audit qui se concentrera sur les dysfonctionnements au sein de la gouvernance du football français. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a même salué la mise en retrait de Le Graët, tandis que Didier Deschamps a quant à lui dénoncé des propos inappropriés. Pour rappel, Noël Le Graët n'en est pas à sa première polémique. Le tout-puissant président de la FFF depuis 2011 a notamment été mis en cause par l'ex-agente de joueur Sonia Sweet dans les colonnes de l'Équipe mardi pour harcèlement et comportement déplacé. Un témoignage qui fait écho aux révélations de SoFoot en septembre, mettant en avant la tendance du président à envoyer des SMS à caractère sexuel à des femmes avec qui il travaille. Noël Le Graët vit donc une fin de règne très compliquée alors que son mandat court jusqu'en 2024.
Bon, c'est lourd hein, tout ce qui est reproché à Noël Le Graët. Hein. Donc effectivement, on a du harcèlement et c'est gravissime. On a un fonctionnement qui paraît très antidémocratique de la Fédération française de football. Quelqu'un qui se comporte un peu comme un petit baron donc, qui fait fi de toutes les règles de respect envers son entourage. Des propos sur Zidane, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il faut dire que le vase était déjà bien plein. D'ailleurs, moi, je suis un peu surpris que tout le monde se soit insurgé des propos sur Zidane. Bien, il fallait le faire, mais on n'a pas eu la même indignation concernant les actes de harcèlement envers les femmes. Donc, c'est quand même assez gravissime que tout le monde parle de démission de Le Graët au moment où il parle mal de la légende de Zidane et que ses appels à la démission, mais ils n'ont pas été quand même très puissants lorsqu'il harcelait les femmes. Donc, est-ce à dire que des propos sur Zizou sont plus graves que le harcèlement des femmes? Moi, je ne pense pas. Je pense que le harcèlement sur les femmes, c'est gravissime et que déjà, à partir de cet acte-là, on aurait dû mettre dans la balance la démission de Le Graët. On ne l'a pas fait. Alors, en ligne, nous allons avoir Michel Moulin, qui est créateur du journal et du site sportif Le Disport, et qui est aussi candidat, qui a été candidat, et qui est un ancien candidat à la présidence de la FFF. Il était à la Coupe du Monde au Qatar, Michel Moulin. Nous l'avions eu en ligne, parce que nous voulions savoir comment ça s'était déroulé. On aime bien l'avoir parce que c'est quelqu'un qui fait pas de langue de bois, qui nous dit les choses très franchement avec son franc-parler habituel. On va avoir aussi en ligne Nasser Ouada qui est aujourd'hui chef d'entreprise mais qui est surtout un ancien joueur de foot professionnel. Dans l'ordre chronologique des clubs par lesquels il est passé, il a fait Nancy, l'AS Nancy, donc qui était le club formateur de Michel Platini. Il a fait Niort, il a fait Ajaccio, l'Île de Beauté, il a fait Metz, il est reparti donc du côté de la Lorraine, Sedan, pas très chaud dans ces villes-là. Hein. Et puis il est redescendu au soleil, il est allé à Montpellier, Nasser Ouada, et puis il est parti à Châteauroux. Châteauroux, c'était Michel Denisot, donc qui a été président. Et puis il est redescendu dans le sud. Donc il a une carrière, Nasser Ouada, qui est assez riche sur le plan footballistique. C'est quelqu'un qui est chef d'entreprise aujourd'hui, que moi j'ai connu quand il était footballeur. C'était un joueur très technique, très talentueux. J'ai voulu qu'il prenne la parole aujourd'hui, parce que c'est un garçon là aussi qui a des convictions et qui puisse nous dire aussi qu'est-ce qu'il pense de cette situation-là. Mais puisque Lou Pineda, vous avez évoqué les sorties de Le Graët, je vous propose, avant de prendre nos invités en ligne, qu'on réécoute nos Le Graët sur « J'en ai rien à secouer ».
Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non?
Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé.
À moi? Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut.
Non, mais en tant que Français, non, mais en tant que Français...
Alors, vous le mettre où, alors?
Bah, non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur. Moi, ça me fera un peu mal au cœur.
Non, ben, vous, peut-être, mais écoutez, moi, j'ai un cœur, c'est gros, et je l'ai prouvé. Vous, je sais pas. Vous, c'est peut-être, je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne.
Bon, vous voyez les propos quand même, il commence par j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. On parle de Zinedine Zidane, hein. C'est quand même peut-être potentiellement un des plus grands joueurs du monde, et en tout cas au niveau national et français, c'est celui qui marque, et peut-être aura marqué à jamais le football français. Regardez ce qu'il continue de dire sur Zinedine Zidane quand on lui dit « est-ce que vous allez l'appeler, s'il vous appelle ?» Qu'est-ce qu'il répond ?
Pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non ?
Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone.
Pourquoi ?
Pourquoi?
Parce que, non, mais pour lui dire.
Pour lui dire quoi? Bonjour, monsieur. Non. ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais mettre d'accord avec Didier.
Non, mais en fait, ce qui est très, très intéressant dans vos réponses, c'est ce qu'on
peut vraiment... Vous êtes franchement là, très, très idéal. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection.
Quelle désinvolture, quel manque de respect. Je dirais qu'il parle du premier venu là, qui vient de passer, mais en fait, de qui parle-t-on ? De Zinedine Zidane. Alors je veux dire, donc, c'est un être humain comme nous, il a deux bras et deux jambes, mais quand même, il a marqué le football français, donc il est dans l'histoire. Donc un peu de respect pour ces champions du monde, il me semble. Michel Moulin, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Michel Moulin, merci d'être avec nous, vous avez été candidat à la présidence de la Fédération Française de Football, je l'ai dit. Donc vous avez un journal aujourd'hui en ligne qui s'appelle le Disport. Vous êtes un passionné de football depuis toujours. Vous étiez à la Coupe du Monde au Qatar, on vous avait eu en ligne. Le Gret, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Oui, mais enfin, juste pour vous dire, donc déjà, très bien d'avoir invité Nasser, qui était un super numéro 10 déjà. Voilà. J'ai joué aussi avec le frère Zidane, moi, un numéro 10, avec Nordine Zidane. Et donc ça m'a beaucoup touché ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, bon, ça c'est Noël Le Graët, le problème. Il y a un an et demi, quand tous les gens ont voté pour lui, il était déjà comme ça. Noël Le Graët, il a 81 ans, je crois qu'il est malade, il est alcoolisé quand il parle.
C'est une analyse grave, ça. Il est alcoolisé quand il parle. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire quoi ? C'est un alcoolique ?
Bien entendu, il est, depuis tout le monde le sait que c'est un garçon qui, à un moment donné, vous pouvez pas l'appeler à une certaine heure et il est comme ça. Moi, quand je me présente à la fédération, tout le monde le sait. Le plus grave de tout ça, c'est que tous les gens qui ont voté pour lui il y a un an et demi.
Pourquoi ils ont voté pour lui, Michel Moulin ?
Mais parce qu'ils ont des droits, et vous savez, ils sont tous entre eux. C'est une caste, ils sont tous entre eux. On les invite à la Coupe du Monde, on les invite à droite, à gauche, sur les licences de. Enfin, sur les pauvres gens qui payent leur licence. Hein.
Oui, mais c'est qui
donc,
qui
tout
vote
monde est...
Là, Michel Moulin, c'est le football amateur qui vote pour le président de la Fédé, non ?
Le football professionnel aussi.
Oui, mais le football amateur, pourquoi ils votent
bien
pour
entendu, les districts. Non, mais ils votent parce qu'ils sont 200 à voter. Tous les clubs ne votent pas. C'est une élection dans une cabine téléphonique, comme je dis. Donc ils ont tous, à un moment donné, il est secrétaire, il est ci, ils ont tous des avantages, vous inquiétez pas, ils ont tous des avantages.
Quand on a
ce
eu les...
Ce que je dis aujourd'hui, Karim,
oui.
C'est que Noël Le Graët, 81 ans, vous savez, si on était corse, on dirait, les vieux, on ne les touche pas. Mmh. C'est gravissime. Mais il y a un an et demi, quand tous les gens qui sont aujourd'hui à la fédération votent pour lui... Mais il devrait avoir honte aujourd'hui. Il devrait se rallier dans la place. C'est-à-dire aujourd'hui,
Michel
dans le comité
Moulin,
exécutif.
Écoutez-moi, Karim.
Laissez-moi finir.
Dialoguez avec moi. Est-ce qu'il faudrait qu'il démissionne, là ?
Mais lui et tous, tout le comité exécutif, là, les Diallo, les Saint-Jacques, les Roulas, dehors.
Ah, carrément.
Il faut changer.
Tout le monde. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils vont avoir, les autres ?
Mais ils ont validé, ça. Vous croyez qu'ils cautionnent pas ? Tout le monde ne sait pas ce qui se passe à la fédération ? Vous croyez que c'est que depuis deux jours que Noël Le Graët a dérapé ?
Donc vous, c'est une démission générale pour vous. Démission générale. Tout le comité exécutif. Le commerce.
Il faut mettre... Moi, je dis qu'il faut faire comme dans une entreprise, quand il y a des gros problèmes, un management de transition, préparer des vraies élections, cette fois-ci démocratiques...
Mais c'est ce qui va se passer
avec Diallo. Moi,
c'est un management de transition, c'est un président par intérim. On attend le rapport du ministère,
non,
là.
Si non, non mais c'est bonnet blanc. Karim, c'est bonnet blanc bonnet. Les mecs, ils sont dedans depuis longtemps.
Donc, vous n'y croyez pas, vous. Il n'y a pas de transition.
Mais pas du tout. Il faut tout changer. Moi, j'ai proposé, d'ailleurs, je l'ai dit dans d'autres émissions, on met un Michel Platini. Qui est quand même représentatif, qui connaît le football, parce que la plupart des mecs, en plus, ils n'ont jamais joué au football. Hein. Ils sont que là par opportunisme. Quand j'entends le président de la Ligue Méditerranée, Borghini, parler, il n'a jamais joué au football. Le Vaucluse le dit, parce que là, on parle que de ce qu'on voit, la Fédération française de football. Mais il y a tous les districts derrière où c'est la panique totale aujourd'hui. Vaucluse, gros problème, démission du président. Provence, démission du président. département 93, magouille dans le district du 93.
Non, Michel Moulin, je me fais l'avocat du diable. Il y a des gens qui disent, on n'a jamais donné autant d'argent, et la fédération ne s'est jamais autant bien portée, au club amateur. Les licenciés sont là, on a été finaliste de la Coupe du Monde, les résultats sont là. Donc, quand on dit ça, je veux dire, ça existe aussi. Je veux dire, il y a des licenciés, il y a des amoureux du football, il y a des clubs amateurs qui ont touché des millions d'euros parce que la fédération a redistribué.
Mais c'est faux. Interroger les petits clubs de football. Moi, j'y vais. Je fais le tour en France aujourd'hui pour aller voir des clubs. Mais pas du tout. Il leur donne deux ballons et deux jasubles.
Nasser Wada, vous êtes avec nous. Bonjour, Nasser.
Bonjour à tous. Je voulais vous présenter mes vœux déjà de bonne année 2023 et de la santé pour
merci,
vous.
Merci.
Et tous vos auditeurs. Et je passe un grand bonjour à Michel et merci pour vos compliments. Merci. Vous avez été trop élogieux à mon égard, je pense.
Alors, avant la première pause, Nasser, j'avais envie de vous entendre. Est-ce que vous avez été choqué par toutes les affaires qui tournent autour de la Grette? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous estimez que la démission s'impose pour ce président de la Fédération française de football?
Je pense, et vous l'avez très bien dit, Karim, je pense que déjà, bon, effectivement, l'affaire Zidane, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais moi, je m'insurge qu'il n'ait pas été déjà mis sur la table une éventuelle démission par rapport à tous les dérapages qu'il a pu avoir auparavant. Que ce soit par rapport aux conditions de travail au Qatar, par rapport à cette affaire d'harcèlement. Et de toute façon, tout le monde le savait. Moi, j'ai une personne qui travaillait à la FFF pendant 5 ans. Et c'était, tout le monde le savait, hein. Tout le monde le savait. Mais je pense que comme il avait ce pouvoir et cette envie de vouloir fermer toutes les vannes et de maîtriser tout, personne n'avait peur de lui dire quoi que ce soit. Et je pense que le fait d'être intervenu de cette façon, avec une telle condescendance, ça prouve quand même, parce que comme on dit, comme vous avez dit, Zidane, ça reste quand même un grand joueur, une belle personne au regard de toutes les personnes en France, et même dans le monde, et d'avoir une telle condescendance, ça prouve que la personne...
Pour vous, c'est la démission. Pour vous, c'est la démission, ça ne discute pas.
Moi, sincèrement, parce que le fait d'avoir mis M. Diallo en intérim, je pense qu'il est l'arbre qui cache la forêt. Hein.
Restez avec nous, Nasser. Michel Moulin est aussi avec nous. On fait une première pause et on revient pour poursuivre sur le débat Fédération Française de Football, démission de Le Graët ou pas. Donc appelez-nous, on va prendre Jamel aussi de Paris qui nous a appelé, qui est en ligne avec nous. À tout de suite les amis.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans les engagés pour poursuivre le débat que nous avons entamé sur Noël Le Graët. On a ouvert notre émission avec l'affaire Le Graët. C'est une véritable affaire qui a fait l'effet d'une bombe dans le football français parce que nous avons quand même une équipe nationale qui obtient de bons résultats. On a des millions de Français passionnés de football, des millions de gamins qui jouent tous les mercredis, qui s'entraînent et tous les week-ends qui sont sur les stades de France et de Navarre, des éducateurs souvent bénévoles qui donnent de leur temps donc pour ce sport qui les passionne, le sport le plus populaire au monde, faut-il le rappeler. Et puis on a un président de la Fédé qui déraille complètement, a des comportements tout à fait scandaleux, qui a des méthodes de fonctionnement antidémocratiques. Michel Moulin qui est avec nous, qui est le fondateur du D-Sport, qui est un journal digital de sport et qui est passionné de football et qui a lui-même eu des responsabilités au Paris Saint-Germain à un moment donné, qui a été candidat à la présidence de la Fédération Française de Football, s'insurge. Et lui, il appelle à une démission en bloc. Il dit, ils sont tous complices, il faut que ça dégage, il faut un management intermédiaire et il faut des élections pour ressolliciter le football amateur, pour remettre une équipe qui remette tout ça à l'endroit. On a Nasser Wada, qui est un ancien footballeur professionnel, qui a fait pas mal de clubs du sud, du nord, de l'est de la France, et qui nous dit lui aussi avoir été très choqué par les propos de Le Graët sur Zinedine Zidane notamment. On a entendu deux sons, mais plus encore sur le harcèlement qui a été commis sur des femmes. À ce sujet, sur le harcèlement commis sur des femmes, il y a une agente de joueur qui a brisé le silence, Sonia Sweet. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, si ce n'est pas le cas, écoutez ce qu'elle dit de son rapport à Le Graët, Sonia Sweet.
Et lors de son rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour m'aider dans ce sens. Et là, en fait, je me prends une claque énorme parce que j'ai mon président de la Fédération Française de Football qui me voit alors que je me sens compétente dans le sens où légitime, j'ai réussi à faire des choses dans la difficulté, mais je les ai faites. Et excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme deux seins et un cul, en fait.
Mais vous rendez compte ? C'est gravissime. Vous avez vu comment son président la voit ? Comment elle ressent les choses dans un rendez-vous privé ? Ou quasiment... on lui fait ressentir que c'est pas de football dont on a envie de parler, et que c'est le fait qu'elle soit une femme, plutôt jeune, plutôt charmante, et que Le Graët se laisse aller à une forme de, je dirais, de domination par sa position de président de la Fédération Française de Football. C'est scandaleux. Qu'en pense Jamel, qui nous appelle de Paris ? Bonjour Jamel.
Oui, bonjour.
Jamel.
Bon ami, santé, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous également. Merci d'être fidèle de Khabar FM. Vous avez vu qu'on a ouvert notre émission sur ce que moi j'appelle l'affaire Le Graët. Doit-il démissionner selon vous ?
Alors, si je peux me permettre, il devrait démissionner, mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'aujourd'hui, on a en face de nous un président qui est là depuis plusieurs dizaines d'années, enfin du moins de nombreuses années, et qui aujourd'hui se comporte comme un dictateur. C'est-à-dire que si ça s'était arrivé dans un pays du Maghreb ou ailleurs, je pense qu'on en aurait fait tout un fromage. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il est hors sol, comme tout le monde le dit. À 81 ans, on n'a pas la notion du football d'aujourd'hui. Et je trouve qu'il a un mépris exceptionnel pour, je dirais, les petites gens, les petites mains du football, à savoir le football amateur, les footballeurs en eux-mêmes. Il a, si vous voulez, son petit réseau qu'il entretient. Il a ses bonnes têtes et ses mauvaises têtes. Et aujourd'hui, tous ceux qui ne vont pas dans son sens, tous ceux qui semblent représenter une menace, sont mis de côté. Donc aujourd'hui, je pense qu'à la Fédération, vous n'avez que des gens qui vont dans son sens. À partir du moment où vous n'avez autour de vous qu'une cour qui dit amène à tout ce que vous dites, forcément, si c'est la seule manière de fonctionner, ben vous allez avoir des gens qui vont refuser. Et donc qui ne vont pas avancer, et des gens qui vont acquiescer et qui eux vont prendre les bonnes places. Donc si autour de vous vous avez que des gens qui vous amènent à tout ce que vous dites, forcément vous vous sentez tout puissant.
Jamel, vous êtes comme Michel Moulin, vous pensez que c'est une démission en bloc du COMEX, de la FEDE qui serait nécessaire ?
Mais on a laissé traîner, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, il est là depuis de trop nombreuses années, il a créé un réseau avec des gens qui acquiescent à
oui,
tous ses bons vouloirs.
Je suis d'accord Jamel, ça c'est le passé, mais aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il faille une démission en bloc de ce comité exécutif de la FEDE pour appeler à de nouvelles élections ?
Mais évidemment, parce que c'est un réseau. C'est encore, pour moi, c'est une famille. C'est-à-dire que on peut pas s'insurger aujourd'hui de ce qu'on a cautionné pendant plusieurs années.
Jamel, qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? Les propos sur Zidane ou le harcèlement sur les femmes ? Dans l'ordre.
Dans l'ordre. Le harcèlement sur les femmes, mais ça, c'est connu depuis des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien beau de commencer à en parler après le mépris qu'il a eu pour Zidane, mais je pense que ces affaires-là, si on suit un petit peu l'actualité sportive, elles existent depuis plusieurs années. Il y a des bruits de couloir et il a une relation particulière, effectivement, qui est parfois à la limite du professionnel avec les femmes qui entourent la fédération.
Merci Jamel, merci de votre clarté en tout cas.
Voilà, je reviens juste une dernière phrase.
Allez-y.
À partir du moment où on accepte pour certaines faveurs ce genre de comportement, qu'on soit homme ou femme, bien évidemment. Je ne dis pas qu'on est complice, mais quand on ferme les yeux, forcément, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui semble être tout puissant, qui se prend pour un chef d'État aujourd'hui, je vais vous le dire, pour moi, il se prend pour un chef d'État, il ne démissionnera jamais de lui-même. Mmh. À partir du moment où il sort cette phrase au COMEX en disant vous ne trouverez jamais rien sur moi, il n'y a aucune casserole. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas du tout le comportement de quelqu'un de responsable aujourd'hui.
Merci Jamel, en tout cas, d'avoir témoigné sur l'antenne de Beurre FM. Vous êtes très limpide, très clair donc dans vos propos. Merci beaucoup, restez fidèles à Beurre FM. N'hésitez pas à nous rappeler sur d'autres sujets d'actualité, Jamel.
À merci
bientôt.
À vous.
Au revoir.
À bientôt.
Michel Moulin, vous avez entendu Jamel, lui il dit ça fait très longtemps qu'on est au courant du harcèlement et quelque part on se réveille sur les propos de Zidane. Il y a beaucoup d'hypocrisie quand même dans cette affaire. C'est assez scandaleux quand même.
C'est scandaleux et je vous dis encore par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a aucun du COMEX. Moi si j'avais été au COMEX, je démissionnais. j'ai donné ma démission pour être de dire, moi je suis contre ce que vous faites, monsieur Le Graët. Ils n'ont pas démissionné. Hein.
Le rapport du ministère, vous en entendez beaucoup du rapport, vous?
Ou non, parce qu'on m'a retrouvé tout ce qu'on sait. Mais je vais vous donner deux ou trois exemples. Par contre, Sonia, que je connais bien, parce que je l'avais...
Sonia Swede, agent de
joueur. Elle est venue me voir au début de sa carrière, il y a plus de 10 ans maintenant, pour que je l'aide. Donc je lui avais présenté des... Elle aurait dû parler avant aussi, Sonia. Elle aurait dû le dire,
c'est
vous
facile,
voyez,
c'est facile
avant,
à dire,
il y a
ça.
Un an et demi, deux
Michel
ans.
Moulin, Michel
non,
Moulin,
mais,
Michel Moulin. On peut refaire le film de manière idéale, oui, mais une femme qui est harcelée, c'est difficile pour qu'elle parle, on le sait.
Mais elle aurait parlé il y en a un ou deux, ça aurait été super. Mais bon, en dehors de ça, il y a d'autres sujets, quand vous me parlez du foot amateur. Je vais vous dire, il faudrait que vous interrogiez un garçon qui s'appelle Mousse Bouzibiba, qui est le président de Narbonne, qui est sur ma liste. Vous savez qu'ils sont arrivés à lui faire une cabale pour le faire descendre dans son club, parce qu'il était sur ma liste.
Nasser Ouada.
Vous avez un garçon, Marc Martinet, du Vaucluse, Karim.
Oui, Michel.
Il y a 2020, ils l'ont fait.
Ne les citez pas tous, ça risque d'être long, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de gens qui trouvent scandaleux la gestion de Le Graët. Nasser Ouada, vous êtes toujours intéressé par le football amateur ou pas?
Oui, je m'y intéresse parce que j'ai mon frère qui est au recrutement à l'AS Nancy-Lorraine, donc il a beaucoup à faire avec tous les éducateurs en région parisienne et un peu partout en France. Donc,
est-ce que dit Michel Moulin, vous vous y retrouvez quand il dit les clubs amateurs, ils sont pas tant aidés que ça, ils sont dans une situation difficile, ils sont un peu écœurés. D'ailleurs, ils votent pas beaucoup. Michel Moulin le dit souvent. Et beaucoup s'abstiennent de voter, sont désintéressés par cette élection qu'ils estiment verrouillée souvent. Vous avez aussi ces retours, vous?
Ils sont livrés à eux-mêmes, hein, souvent, hein. Ils essayent de faire du bricolage avec les jeunes, c'est surtout du social. Les éducateurs, ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils sont sur le terrain et je pense qu'on leur donne pas beaucoup la parole. Moi, je regardais un petit peu, j'ai feuilleté un petit peu ce qu'ils disaient. Diallo, ancien boxeur. Madame Ardouin, ancienne escrimeuse. Alors, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Mais à un moment donné, je pense que pour diriger une fédération de football.
Mais ça n'a pas grand lien avec le football, tout ça. Ouais, vous avez raison.
Hein. Il faut des footballeurs. Mmh. Il faut la connaissance du football et certaines personnes qui connaissent le football amateur, d'autres qui connaissent le football professionnel. Mmh. Et surtout, je pense qu'il faut que les uns mettent leur ego de côté pour pouvoir justement se mettre à la hauteur du niveau amateur, pour pouvoir discuter, échanger et pour pouvoir aussi écouter.
Alors, vous nous parlez de football.
Tout le monde vient du monde amateur, hein.
Vous nous parlez de football tous les deux, Michel Moulin, Nasser Ouada, qui sont avec nous. Écoutez ce que dit Didier Deschamps lorsqu'il est interrogé sur les propos de Le Graët sur Zidane.
Concernant la dernière actualité avec les déclarations de mon président, donc bien évidemment ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou.
Inappropriés. Propos inappropriés. Et il prend des pincettes, le Didier Deschamps, Michel Moulin. Comment ça se fait, ça?
Mais il est... Comment vous voulez qu'il fasse autrement, Didier Deschamps? Il est entraîneur de l'équipe de France, il est obligé d'avoir un peu ce recul. Moi j'aurais aimé qu'il parle avant, surtout par rapport à son coéquipier qui est Zidane, parce que si Deschamps il en est aujourd'hui où il en est, il peut remercier comme Zizou, parce que je pense qu'il n'aurait pas été champion du monde ni champion d'Europe sans Zidane. Mais maintenant, il joue sa carrière à lui. Là, il joue pas autre chose. Vous voulez qu'il s'exprime autrement?
Alors, vous parlez de Zidane. Je vais vous faire réagir. Écoutez ce que Deschamps dit de Zidane.
De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football.
Nasser Ouada, je vais faire réagir Michel Moulin, mais en tant qu'ancien joueur de foot professionnel, je vais vous faire réagir. Les égos, ils sont là dans un vestiaire, hein. Il n'y a pas de secret. On va pas se raconter d'histoire. Est-ce que vous trouvez que les propos de Didier Deschamps sont sincères, sains, dans sa relation à Zidane? Et est-ce que vous n'estimez pas que quand même, au sein de cette Fédération française de football, je veux pas adopter une posture qui peut apparaître victimaire, mais sujet Benzema, sujet Zidane, ça fait beaucoup quand même.
Mais Karim, je vais même aller plus loin. Alors effectivement, hein, je vais dédouaner Monsieur Le Graët puisqu'il n'était pas encore à la tête de la Fédération française de football. Mais en 2011, on parle de quotas. On parle de vrais Français, 50% de vrais Français qui doivent être dans les sélections de jeunes. Donc ça, c'est des propos avérés avec des écoutes. Il y avait Monsieur Blanquer à l'époque, il y avait Laurent Blanc qui assistait à ces réunions. Il a même présenté ses excuses. Et donc, à un moment donné, même si je veux pas mettre le mot racisme au milieu de tout ça, on est en droit de se poser des questions. Et ça, c'est en 2011. Là, aujourd'hui, Deschamps, moi, ça me choque quand il dit déjà, je voudrais parler de mon président. Il dit mon président. Donc, dans sa tête, il est toujours président. Donc, ça change pas. Ensuite, presque, il met en valeur les excuses de M. Le Graët par rapport à des paroles, des propos qu'il a tenus. Je pense qu'il aurait pu se détacher, prendre du recul. Hier, il a eu une attitude de politicien. Il a arrondi les angles. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mouillé par rapport à son président. Parce que quand je vois tous les anciens joueurs de 98, ils ont été à l'unanimité. Et j'ai même vu Jean Tigana qui a pris la parole, qui a dit avec le comité des anciens footballeurs, des anciens de l'équipe de France, ils ont condamné fermement.
Ouais, bien
sûr. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Michel, il faut redonner le football aux footballeurs. Et je pense à monsieur Platini, qui je pense est pour moi la personne idéale pour aujourd'hui pour voir gérer une fédération. Bon. Il a géré l'UEFA.
Tous les deux, vous appelez quand même à un retour au premier plan de Platini qui a été blanchi à 99% sur ses affaires avec l'UEFA. Donc c'est peut-être intéressant effectivement de le voir réapparaître sur la scène du football français. Michel Moulin, je disais affaire Benzema, ça a été quand même très ambigu la manière dont il a quitté le Qatar. Il est retourné à Madrid quelques jours après, il s'entraîne potentiellement dans le cadre de la Coupe du Monde, il fait des matchs amicaux là-bas. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il pouvait jouer. On a l'impression qu'on voulait se séparer un peu rapidement de Benzema. Là, des propos sur Zidane qui sont scandaleux. Vous allez me dire, non, Karim, ne faites pas le lien, deux Français d'origine algérienne. Mais non, si, je le fais le lien. Moi, je le fais le lien. Moi, je le fais le lien. Donc, je le fais le lien. Parce que derrière le sujet des quotas, on a quand même ces deux joueurs emblématiques, un qui est Ballon d'Or, l'autre qui est une légende du football. On a l'impression qu'ils dérangent le foot français. C'est quoi cette affaire?
Je l'ai dit lundi soir dans une autre radio, vous avez 100% raison. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis maghrébins qui m'ont appelé, qui ne supporteront plus jamais l'équipe de France. Parce que là, vous oubliez Ben Yedder aussi, qu'on n'a pas sélectionné. Mais moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce que ces gens font aujourd'hui est très grave pour la suite de notre pays. Parce qu'ils font une... Quand je me suis battu pour que Benzema, vous rappelez, j'ai été le premier à dire pourquoi Benzema n'est pas sélectionné, pourquoi on ne nous le dit pas. Parce que quand vous allez voir dans les banlieues, les petits vous montrent la photo de Benzema. Il faut expliquer. Et là, ce qui s'est passé là, vous avez 100% raison, ça fait encore une fracture dans notre société.
Merci Michel.
Et ces gens-là ne se rendent pas compte du mal qu'ils font.
Michel, vous allez être candidat s'il y avait des élections à la Fédération française de football?
Mais bien entendu que j'en ai envie, mais c'est pas le sujet aujourd'hui.
Bon, ben montez une équipe, Michel Moulin.
Mais
allez-y.
On a déjà, ne vous inquiétez pas.
Bon, merci Michel. Merci Nasser Ouada, à très bientôt.
Merci Nasser, merci, au revoir.
Merci.
À bientôt les gars, à bientôt.
Au revoir.
Petite pause les amis, on revient pour poursuivre le débat. C'est Maître Seroussi qui sera avec nous au retour de la pause pour nous parler de la liberté d'expression et des propos scandaleux de Michel Houellebecq.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Je reprends la main sur les engagés pour poursuivre l'émission. Nous avons abordé l'affaire Le Graët en début d'émission. On a ouvert avec ça, ça nous paraissait important parce qu'il y a quand même des scandales autour de cette Fédération Française de Football. Il faut réagir. Certains appellent à la démission de Le Graët, d'autres, comme Michel Moulin, que nous avons en ligne, appellent à la démission en bloc du comité exécutif parce qu'ils disent, ils sont tous complices, ils ont cautionné le harcèlement, le fonctionnement antidémocratique, les propos sur Zidane. Donc, il faut refaire une élection. Nasser Wada, ancien footballeur, s'est dit lui aussi très choqué par ce qui se passait. Je voulais prendre Bilal Nedman qui anime tous les soirs de 20h à 21h Time Sport sur Beurre FM. Malheureusement, Bilal est donc été pris au début de l'émission. On le prendra prochainement. J'aime beaucoup Bilal Nedman, non pas parce qu'il est marseillais, donc si un peu quand même. Allez. Donc, mais surtout parce que son émission, elle est toujours très vivante tous les soirs de 20h à 21h sur Beurre FM Time Sport. Nous allons passer à la rubrique Le Conseil Citoyen.
Le Conseil Citoyen.
Alors, le Conseil citoyen, on a demandé à Maître Seroussi, est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression, étant entendu que nous avons été très choqués, comme nous le sommes à chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'il prend la parole, que Michel Houellebecq, celui qu'on qualifie comme un très grand écrivain, certes, il est peut-être un très grand écrivain, mais il est un homme qui est scandaleux par les valeurs qu'il véhicule. Il a dit, deux points ouvrir les guillemets, Michel Houellebecq, dans un entretien avec Michel Onfray, le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la manière dont la parole s'est libérée dans notre pays. Quelqu'un qui est capable de dire, d'abord, population française de souche, il y a des Français plus français que d'autres. Donc, je ne sais pas ce que c'est, de souche. À partir de quand on peut être considéré comme un vrai Français? Deuxièmement, ce n'est pas que les musulmans, donc ils essentialisent toute la communauté musulmane, il y a à peu près 6 millions, 7 millions de musulmans en France, s'assimilent. S'assimiler, ça veut dire quoi? Donc, gommer ce que nous sommes, oublier l'histoire familiale, les origines, éventuellement la dimension culturelle qui a fait effectivement ce que sont nos ancêtres, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ça s'assimiler, c'est se renier, c'est s'éradiquer, c'est quoi? Donc, est-ce qu'on peut pas dire plutôt que c'est de l'acceptation dont on a besoin dans la société française, de l'acceptation de toutes les identités culturelles, de toutes les religions? C'est ça la force de la République de la laïcité. Il dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Mais c'est de la folie. Ou bien autre solution, qu'ils s'en aillent. Face à ces propos, le recteur de la mosquée de Paris, de la grande mosquée de Paris, avait décidé de porter plainte. Il a porté plainte. Et puis, nous avons appris, de manière, je dirais, un peu déconcertante, que le grand rabbin, Haïm Korsia, a mis en place une rencontre autour d'un café entre Michel Houellebecq et Shemseddine Hafiz, le grand recteur de la mosquée de Paris, et que ce dernier a décidé de retirer sa plainte. Je veux dire, nous, on a été choqués, parce qu'on s'est dit, pourquoi retirer une plainte qui était fondée et qui était absolument nécessaire, selon nous, face à des propos qui sont aussi scandaleux. Maître Seroussi, vous êtes avocat, on va parler de droit avec vous. Est-ce que les propos que j'ai évoqués de Michel Houellebecq relèvent de la liberté d'expression, ou bien sont-ils condamnables, parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et surtout insulter toute une communauté quand on s'exprime?
Karim, alors d'abord, les propos de Michel Houellebecq, ils sont, avant de parler droit, totalement scandaleux. Et c'est pas la première fois que Michel Houellebecq a des propos de ce type-là. Rappelez-vous, déjà depuis 2001, il avait déjà traité l'islam de la religion la plus conne du monde. À l'époque, il y avait déjà un dépôt de plainte qui avait été mis en place. Malheureusement, je ne sais pas comment ça avait été fondé, par qui ça avait été traité, mais il avait été relaxé. Donc ça veut dire que Michel Houellebecq se revendique lui-même islamophobe. Il n'y a pas de débat sur ça. Et ça, c'est l'écrivain français le plus lu dans le monde, et c'est l'écrivain français pris Goncourt en 2010. Voilà de qui on parle aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de cette médiation avec le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui est intervenu pour éviter que des suites judiciaires interviennent. Moi, je suis pour la paix. Mais à un moment donné, lorsqu'on fait la paix, il faut prendre en considération les excuses. Où sont les excuses de Michel Houellebecq? Il n'y en a pas. Maintenant, je vais prendre la cape d'avocat et je vais vous dire ce que je pense. La liberté d'expression, vous le savez, c'est un droit constitutionnel qui est consacré depuis la Constitution et donc depuis de nombreuses années. En revanche, cette liberté, elle a ses limites, Karim. Elle a ses limites et notamment la limite de l'incitation à la haine raciale. Alors Michel Houellebecq est assez intelligent puisqu'il dit « Mais finalement, moi je sais pertinemment que l'islam n'est pas une race mais une religion, donc vous allez me rechercher sur une problématique raciale alors que finalement, moi je m'attaque à une religion ». Ben non, puisque l'incitation à la haine raciale, c'est aussi une incitation à la haine, finalement, à l'égard de toute personne en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de l'identité des genres et de leur handicap. Donc l'islam est bien une religion, ce n'est pas une race, et l'incitation à la haine que met en avant Michel Houellebecq, par le biais de cet entretien publié il y a quelques mois, finalement, parce que c'était en novembre, hein, ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, mais ça fait quand même plus de 2 mois que ces propos sont sortis. Pour moi, ils sont non seulement condamnables, et je ne l'explique absolument pas, que le recteur de la mosquée de Paris ait retiré sa plainte. Ça me semble complètement farfelu. Et là, je voudrais, si vous me laissez la parole, Karim, rebondir sur toute autre chose. La problématique institutionnelle, finalement, de l'organisation de l'islam en France. Puisque vous avez dû voir, Karim, tout comme moi, que même si aujourd'hui le recteur a retiré sa plainte, il n'en demeure pas moins que d'autres intervenants, eux, vont déposer plainte. Donc on n'y comprend finalement plus rien, puisqu'on a de l'autre côté aujourd'hui...
Il y a d'autres intervenants qui déposent plainte, maître ?
Pardon ?
Il y a d'autres intervenants qui déposent plainte ?
Aujourd'hui, on a donc effectivement le Conseil français du culte musulman qui a annoncé déposer plainte, ainsi que l'Union des mosquées de France. Donc en fait, on n'y comprend réellement plus rien. On a une sortie médiatique de la part du grand recteur qui finalement fait un retour en arrière à la suite d'une rencontre. Et allez voir les conditions de la rencontre, Karim. Je ne sais pas si vous avez vu les conditions de la rencontre. Raïm Korsia décide... de faire rencontrer Michel Houellebecq et le grand recteur de la mosquée. On doit se plier à l'agenda de Michel Houellebecq, alors que c'est lui qui incite à la haine religieuse. C'est lui qui profane ses insanités contre l'islam. Finalement, ça a lieu autour d'un café. On sort de là et puis... entendez bien les propos du grand rabbin qui, moi, m'ont quand même surpris. Il est heureux, évidemment, que ça n'aille pas plus loin, qu'il estime qu'il y a un procès qui est inutile. Moi, je ne pense pas que ce procès soit inutile. Je pense qu'à un moment donné, il faut tout mettre sur la table et il faut aller au bout des convictions qui sont celles des représentants religieux. Ce n'est pas possible, à un moment donné, de faire machine arrière. Et on a, au final, si vous voulez, le grand rabbin de France, excusez-moi, qui va avoir une déclaration qui est pour moi un petit peu surprenante, où il va nous dire que Michel Houellebecq est un grand penseur. Moi, je pense que Michel Houellebecq pense beaucoup de bêtises, justement. Donc, aujourd'hui, je ne comprends plus ce qui se passe. J'ai été interpellé par les propos scandaleux de Michel Houellebecq, qui n'est pas n'importe qui, mais qui commence à faire n'importe quoi, et depuis trop longtemps. Je pense qu'à un moment donné, il faut les cesser. Cesser ses propos contre une religion qui est assimilée à du vol, qui est assimilée à un Bataclan à l'envers, mais dans quel pays sommes-nous ? Est-ce qu'aujourd'hui on s'est battu pour avoir une liberté d'expression, pour entendre contre une religion de telles insanités ? Ce n'est pas possible. Alors moi je demande aujourd'hui simplement que la même rigueur qu'on a avec toutes les autres religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme, lorsqu'on nous attaque, nous juifs, nous chrétiens, nous musulmans, bah aujourd'hui avec cette rigueur, elle s'applique pour l'islam. Il n'y a pas de raison aujourd'hui à dire qu'on fasse une sorte d'appréciation à géométrie variable finalement d'avancer, de reculer, non. Voilà.
Bon, aujourd'hui, c'était la rubrique de maître Serroussi. Merci maître. On ne peut pas être plus clair que vous. Et c'est pour ça qu'on vous aime sur BFM. Merci maître. À la semaine prochaine.
Merci à vous, quasiment.
Petite pause et on revient pour parler de la relation France-Algérie après le journal Maghreb Actu de Fodid Belhamri.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans Les engagés, nous avons entendu Maître Serroussi nous parler de la liberté d'expression, mais surtout des propos scandaleux de Michel Houellebecq. Beaucoup ont appelé le standard de Beurre FM cette semaine parce qu'ils demandaient pourquoi la plainte avait été retirée sur Michel Houellebecq par la Grande Mosquée de Paris. Donc on souhaitait en parler. Nous donnerons la parole au grand recteur de la mosquée s'il le souhaite, évidemment. S'il écoute notre émission, donc qu'il n'hésite pas à nous appeler. En tout cas, l'antenne de Beurre FM lui est totalement ouverte. Nous allons engager Maintenant, Madame Zora, je vous demande un peu d'attention, je parle à la réalisatrice, là, parce que vous savez, c'est elle qui lance les jingles. Maghreb Actu.
Maghreb Actu, le fait marquant.
Fodil Bellamri, ça va Fodil ?
Ça va très bien Karim, toujours
Maghreb Actu, c'est
là.
Votre rubrique Fodil. Eh ben, vous allez nous parler du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie en nous donnant des nouvelles fraîches de ces trois pays du Maghreb.
Eh ben, on commence par le Maroc, mon cher Karim. L'entreprise française Faurecia, spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles, va renforcer sa présence au Maroc à travers la création d'une nouvelle usine à Salé qui se trouve à 3 km de Rabat. Dans ce sens, un protocole d'accord a été signé entre le groupe et l'État. L'objectif de cet accord est de consolider la position du groupe dans l'écosystème automobile marocain, a indiqué un communiqué conjoint, notant que cet investissement permettra la création de 1400 emplois direct à l'horizon 2028. Du côté de la Tunisie, le président de la République, Kais Saied, a désigné Keltoum Ben Rajab Kaza en tant que ministre du Commerce et du Développement des Exportations. C'est ce qui ressort dans un communiqué publié par la présidence de la République hier. Le même communiqué montre que la nouvelle ministre a déjà prêté serment. Pour rappel, le chef de l'État récemment limogé, Fadila Rabhi Ben Hamza, et son chef de cabinet à quelques jours d'intervalle. Un limogeage qui intervient dans un contexte marqué par l'action de l'inflation et qui touche le pays et des pénuries des produits alimentaires.
Il y a un nouvel accord, je crois, entre le FMI et la Tunisie aussi, non ?
Effectivement, alors que le rapport de l'examen du dossier de la Tunisie par le Fonds monétaire international pour un prêt de 1,9 milliard de dollars sur une période de 48 mois pour relancer son économie a fait couler beaucoup d'encre, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie est revenu sur le sujet. Il a affirmé qu'il est absolument serein lors d'une conférence de presse en abordant la capacité de la Tunisie à parvenir à un accord définitif avec les institutions internationales. Cet accord devrait être conclu prochainement. Rappelons que la Tunisie vit une crise économique inédite et fait face à un déficit budgétaire de 7,7%. L'inflation a atteint 10,1% dans le pays et les prix de l'alimentation flambent encore davantage, en hausse de 14,6% par rapport à la même période de l'an dernier, mon cher Karim.
Une actualité sportive du côté de l'Algérie.
Eh ben, coup d'envoi ce soir jusqu'au 4 février du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs des championnats locaux en Algérie. La compétition va regrouper pour la première fois 18 nations, battant le record des 16 pays enregistrés lors des précédentes éditions. Quatre stades réceptionneront la compétition, dont celui de Nelson Mandela Baraki, inauguré hier par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le stade du 19 mai d'Annaba, rénové pour l'occasion, celui de Chahid Amlaoui de Constantine et Mouloud Hafdi à Oran. La cérémonie d'ouverture aura lieu au stade Nelson Mandela à partir de 18h aujourd'hui, en la présence du président de la FIFA Infantino. Plusieurs personnalités sportives, dont Samuel Eto'o, Djedje Okocha, Didier Drogba, Assamoua Djian, El Hadji Diouf, Roger Mila, Adebayor, Karim Agui seront de la partie. Le chanteur Soul King animera un show avec d'autres artistes. Une forte affluence est annoncée pour la cérémonie d'ouverture et le match entre l'Algérie et la Libye à partir de 20h. Une grosse ambiance est attendue pour l'occasion, mon cher Karim.
Donc une grande fête pour le football africain en Algérie avec cette ouverture à Alger et toutes les personnalités que vous avez cité, Fodil, autour du président Tebboune.
Exactement. Et peut-être il y aura aussi des invités d'honneur. Petite information, Karim, le Maroc, normalement, sera bel et bien de la partie.
Ah, ça fait plaisir. On parle de sport, là. Donc, il faut que tout le monde se retrouve à Alger pour cette belle compétition. Vous vouliez le faire en coup de cœur, mais je tiens à ce que vous en parliez maintenant. Le nouvel an berbère, Yenayer. Donc, ça nous tient là aussi particulièrement en cœur au sein de Beurre FM. Parce que vous savez que les fondateurs de la radio Beurre FM sont d'origine berbère, donc Kabyle plus précisément. Et comme on dit toujours, pour savoir où on va dans la vie, il faut savoir d'où on vient. Donc ne jamais oublier d'où on vient, c'est fondamental. Alors, nouvelle en berbérienne ailleurs.
Alors, la communauté Amazigh en Algérie, en Afrique du Nord et également dans le monde entier célèbre le nouvel an, ou appelé communément Yenayer, une fête traditionnelle ancestrale présente en Afrique du Nord depuis des siècles. La journée d'hier a marqué le 2973e année du calendrier Gabriel Grère. Cet événement a été célébré dans l'union et la joie dans le centre du pays, où des riches programmes culturels marqués par la participation de plusieurs wilayas ont été organisés à l'occasion. En revanche, mon cher Karim, à Paris, Nahir était de la partie. C'est aussi l'occasion pour la mairie du 19e arrondissement d'offrir pour la 6e année consécutive des repas traditionnels à plus de 14 000 enfants des écoles maternelles primaires de l'arrondissement. D'autres événements culturels sont prévus ce week-end dans plusieurs villes françaises.
Merci Faudil, très bel nouvel an pour tous les berbères du monde pour cette nouvelle année. Nous allons aborder un sujet qui est sensible. Un sujet qui fait beaucoup parler dans la société française, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la relation France-Algérie. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donné une interview au magazine Le Point, à l'hebdomadaire Le Point, une interview fleuve sur la relation France-Algérie. Le titre de cette interview, c'est « La guerre d'Algérie est la matrice de tous les ressentiments ». Alors, évidemment, on ne peut pas évoquer la relation France-Algérie en niant l'histoire, mais on doit aussi se projeter dans l'avenir. Et la relation France-Algérie, elle a fait état très récemment d'un déplacement du président Emmanuel Macron à Alger, déplacement d'État qui a duré plusieurs jours, comme jamais peut-être aucun président de la République a pu le faire. Il était à Alger, il est parti à Oran, il est revenu à Alger, il a signé une forme de traité qui engage des relations plus solides et plus fortes. Lou, cette relation France-Algérie, elle est complexe, mais elle est indispensable.
Exactement, et c'est pour ça qu'effectivement Emmanuel Macron, notre président de la République, a donné un long entretien à l'écrivain algérien Kamel Daoud, publié mercredi 11 janvier dans Le Point, où il a confié sa vision de la relation franco-algérienne en abordant tous les sujets, du colonialisme à la repentance en passant par l'immigration. La question des excuses étant toujours au cœur de la relation bilatérale et des tensions récurrentes entre les deux pays, Emmanuel Macron a estimé qu'il n'avait pas à demander pardon. Dans son entretien, le chef de l'État espère d'ailleurs que le président Tebboune pourra venir en 2023 en France afin de poursuivre un travail d'amitié inédit après la visite qu'il a effectuée en Algérie en août 2022. Et dernier sujet important que le président a évoqué, les relations entre l'Algérie et le Maroc, où Emmanuel Macron a appelé à l'apaisement des tensions entre les deux pays qui sont de grandes puissances rivales de la région.
Alors nous avons en ligne la chance, l'honneur et le plaisir d'avoir l'ambassadeur d'Algérie en France, M. Saïd Moussi, qui est en fonction depuis quelques mois, qui est un fin connaisseur de la diplomatie, mais aussi plus particulièrement de la France, de notre pays. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Vous êtes avec nous, Monsieur bonjour. L'ambassadeur.
Bonjour Monsieur Zeribi, bonjour à tous vos auditeurs, et laissez-moi l'occasion de vous réitérer mes meilleurs voeux de bonne année et un excellent Yenayer Amarvouh à tous vos auditeurs.
Merci Monsieur l'ambassadeur, on est très heureux de vous avoir parce que cette relation France-Algérie, elle ne peut pas être évoquée sans les acteurs majeurs de cette relation, et vous en êtes Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes le diplomate qui représente l'État algérien en France, dans notre pays. On a vu le président Macron récemment se rendre à Alger, puis à Oran, avoir une relation très, je dirais, confraternelle avec le président Tebboune. Vous confirmez que les relations se sont réchauffées entre nos deux pays ?
Je vous le confirme en effet. Depuis cette visite historique qu'a effectuée le président Macron à Alger à la fin de l'été, nos deux présidents ont pu échanger à cette occasion et la taille et la qualité de la délégation française présente à cette occasion était une démonstration de la volonté partagée d'aller de l'avant pour nos deux pays, et ceci pour l'intérêt de nos deux peuples.
Monsieur l'ambassadeur, il y a une relation qui souvent a été, je dirais, polluée, si je peux utiliser ce terme, permettez-moi, en tout cas, énormément, je dirais, touchée par l'histoire de ces deux pays. 132 ans de colonisation, une guerre d'Algérie qui a vu des morts de part et d'autre, des populations qui ont été marquées, je pense à tous les jeunes appelés français qui ont été en Algérie, pour certains qui se demandaient où ils étaient, ce qu'on leur demandait, qui n'adhéraient pas à cette idée de la guerre, des harkis dont aujourd'hui encore, il y a une problématique en France qui semble ne pas avoir été traitée comme il se doit par le gouvernement français, une diaspora des Français issus de l'immigration, dont je suis qu'un des produits, mais nous sommes très nombreux là-dessus, avec des parents qui ont plutôt été du côté de l'indépendance, donc de l'Algérie. Cette histoire, sans la dépasser, on va pouvoir la regarder en face un peu plus sereinement, de manière apaisée, de part et d'autre. Où en est-on ?
Vous venez de le dire, cher Karim, et je vous renvoie à la décision prise par les présidents Macron et De Gaulle à l'occasion de cette visite de la fin de l'été passé, où il a été décidé la mise en place d'un comité mixte d'historiens. Pourquoi ? Et cela a suscité des débats sur cette initiative, c'est tout à fait normal, mais l'objectif étant de mettre l'histoire à l'abri des manipulations, souvent malveillantes, qui entourent cette histoire dense, difficile, dure, comme vous l'avez si bien rappelé, et de nous permettre d'envisager l'avenir sans occulter pour autant ce passé qui est là, et il faut l'accepter tel qu'il est. Et je paraphrase à peine les mots de nos deux présidents à cet égard.
La relation France-Algérie, si on la regarde en nous projetant vers l'avenir, c'est quoi ? C'est un renforcement des relations économiques, sont des échanges à dimension culturelle et sportive beaucoup plus riches qu'ils ne sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été décidé entre les deux présidents à l'aune de cette visite que vous avez évoquée d'historique ? Est-ce qu'on est confiant sur la relation entre nos deux pays pour l'avenir ?
Alors la confiance, je vous le confirme, elle est là. Mais tout d'abord, j'aimerais rappeler la relation entre nos deux pays. Est très particulière. Ce n'est pas une relation comme une autre. L'histoire est là, et nous la portons. Et c'est plus que cela, une relation entre deux peuples. Le fondement humain de cette relation est très important, et cette relation se bâtit justement sur le volet humain. À partir de là, et avec les complexités qui caractérisent la dite relation, nous avançons sur différents domaines. Les liens sont multiples, ils l'ont toujours été, et ils sont amenés à se renforcer davantage.
Il y a 450 entreprises françaises aujourd'hui installées en Algérie. Est-ce que vous appelez à plus de dynamique économique entre nos deux pays aussi, quand on sait quand même que la France n'est plus le premier partenaire business de l'Algérie, hein, puisque ce sont les Chinois. On voit que beaucoup de pays s'intéressent à l'Algérie, je pense à la Turquie, bon, la Russie, les États-Unis sont toujours intéressés à l'Algérie, les Italiens sont quand même assez présents aussi en Algérie, il y a des accords sur l'énergie qui ont été passés assez récemment. Pourquoi on a pris du retard, nous Français, en Algérie, alors qu'on a quand même une diaspora qui est importante, des pieds noirs qui viennent d'Algérie, qui pour certains auraient envie peut-être d'y revenir, avec une approche gagnant-gagnant, d'égal à égal, pourquoi cette difficulté à voir la France occuper un leadership ? Est-ce que les choses vont être à nouveau mises en dynamique de ce côté-là ? La diaspora, pour vous, c'est important en tant qu'ambassadeur d'Algérie en France ?
Absolument. S'agissant de la diaspora, j'aimerais juste vous rappeler et le souligner à cette occasion, l'intérêt porté par le président Tebboune depuis son investiture fin 2019 à l'égard de nos sœurs et de nos frères qui se trouvent à l'étranger, où qu'ils soient, et particulièrement en France. Vous savez, un nouveau paradigme s'est mis en place en Algérie. Nous parlons désormais de l'Algérie nouvelle, et tous ensemble, nous sommes amenés à apporter notre contribution dans l'édification de cette Algérie nouvelle et pour mettre fin aux mauvaises pratiques qu'on a connues au cours des années précédentes. Et sur cette base, la diaspora a toute sa place. Et je vous renvoie aux différentes mesures qui ont été prises à cet égard et qui seront annoncées prochainement également. Et la diaspora est invitée, tout comme leurs sœurs et leurs frères en Algérie, à prendre part à l'édification de ce pays qui est le nôtre.
L'Algérie nouvelle, ça paraît être un slogan. Comment on passe du slogan à la réalité, monsieur l'ambassadeur? Vous êtes convaincu quand même, je pense, et conscient qu'il y a des, gens qui sont perplexes. On a déjà entendu parler de l'Algérie nouvelle, de la nouvelle Algérie. Le président Tebboune semble décidé à faire bouger les choses, à lutter contre la corruption, à faire en sorte qu'on puisse travailler librement en Algérie, à ce que cette jeunesse trouve sa place. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que si que l'Algérie s'ouvre, on ne retombera pas dans les travers du passé?
Alors, vous l'avez si bien rappelé, cette Algérie nouvelle s'inscrit dans une dynamique qui s'oppose aux pratiques malveillantes du passé. De quoi être perplexe, on peut le comprendre au départ. Notre pays a vécu des moments très particuliers, des moments complexes. Je vous renvoie au Hirak béni originel de départ, qui a permis de sauver le pays de la catastrophe, qui a permis l'élection du président Tebboune, et depuis l'engagement d'une nouvelle dynamique. S'agissant de l'économie, je reviens à votre question de départ, je vous renvoie à la nouvelle loi de finances et à l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis. La lutte contre la corruption reste une des priorités, mais plus que cela, quand on parle de paradigme, c'est la mise en place d'un nouvel écosystème basé sur l'éthique, davantage d'éthique, pour nous permettre, nous, enfants de l'Algérie, d'aller de l'avant.
Le président Abdelmadjid Tebboune a prévu une visite en France, d'après l'interview que Emmanuel Macron a donnée, puisqu'il lui a lancé une invitation. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions, ou c'est encore trop tôt? Est-ce qu'il viendra au cours de l'année 2023?
Alors, au jour d'aujourd'hui, nos deux présidents ont évoqué dans leurs interviews respectives ce projet de visite, et pour s'agissant de la date, disons qu'il est encore un petit peu tôt pour vous en dire davantage.
Merci, monsieur l'ambassadeur. On vous remercie très sincèrement. On sait que vous avez un agenda qui est bien rempli, parce que la tâche n'est pas simple pour un diplomate de votre niveau en France. Mais vous avez répondu présent à notre invitation. On espère que dans quelques semaines, vous viendrez en plateau avec nous pour une émission un peu plus longue, pour qu'on rentre dans le détail avec des acteurs de la société civile aussi qui auront des questions à vous poser. On vous souhaite une belle année à l'Algérie. Et toujours et encore des liens très renforcés entre nos deux pays. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci à vous et à vos auditeurs. Juste un dernier mot. S'agissant de l'Algérie nouvelle, je peux vous souligner qu'il s'agit bel et bien d'une réalité qui prend forme. J'ai écouté votre programme au cours des minutes qui avaient précédé mon intervention, et je vous en remercie encore une fois. Vous avez parlé de l'Algérie, d'événements qui se déroulent actuellement, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, et soyons positifs et avançons dans ce cadre-là. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux, et à très bientôt.
Merci, monsieur l'ambassadeur, merci. On fait une petite pause et on revient avec le sujet des retraites. Donc, c'est un sujet explosif. Une grève est prévue jeudi 19 janvier. Nous aurons le secrétaire général de la CFDT en charge des retraites, un économiste, et puis quelqu'un qui faisait partie du mouvement des Gilets jaunes et qui nous dit c'est pas fini les Gilets jaunes. A tout de suite, les amis.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour dans Les Engagés pour évoquer un sujet explosif. C'est la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement. Emmanuel Macron s'est engagé dans sa campagne présidentielle de faire une réforme des retraites. Elisabeth Borne aux commandes, à peine nommée, qui avait engagé quelques échanges avec les partis de l'opposition, mais aussi les organisations syndicales. Et voilà que sa réforme a été présentée à l'Assemblée nationale avec des marqueurs. Alors, on va revenir rapidement avec des invités de marque, puisque nous allons avoir Yvan Ricordeau, qui est secrétaire national de la CFDT en charge de la politique des retraites. Sébastien Ley, qui est économiste à l'Institut Thomas Moore, qui est un think tank libéral conservateur qui est en place à Bruxelles et à Paris. Mais nous aurons aussi un citoyen engagé, puisqu'il faisait partie des Gilets jaunes, et on va aborder avec lui potentiellement les mouvements sociaux dans notre pays. Est-ce que ça peut repartir avec des manifestations d'ampleur, mécontentement, une forme de colère qui se cristallise à partir de la réforme des retraites, mais aussi surtout avec les problèmes d'inflation que subissent les Français, une augmentation des prix un peu folle, l'énergie qui flambe. Déjà que c'était pas facile donc avant la crise en Ukraine en a rajouté une couche, donc il faut bien le rappeler. Alors est-ce que cette réforme est je dirais nécessaire, indispensable? Elisabeth Borne, voilà ce qu'elle nous dit.
Présenter un tel projet est toujours un moment de vérité. C'est un choix politique essentiel. C'est défendre l'un des fondements de notre modèle social. C'est faire vivre la solidarité entre les générations. Mais cette solidarité repose sur un équilibre. Il faut que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Dire que cet équilibre n'est plus assuré n'est pas une posture, c'est un constat.
Yvan Ricordeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national à la CFDT, en charge des retraites, si je puis dire. Vous avez entendu la Première Ministre, vous avez vu la réforme qu'elle souhaite présenter à l'Assemblée nationale et puis au Sénat, qui reviendra ensuite à l'Assemblée nationale. La CFDT avait évoqué quelques marqueurs qu'elle qualifiait d'intouchables. Qu'en est-il aujourd'hui de votre position vis-à-vis de la réforme présentée par la Première Ministre?
La CFDT a été claire pendant toute la concertation sur la réforme des retraites. Depuis le début de l'automne, on a dit que deux choses. La première, c'est il y a une question qui se pose au système de retraite. C'est une question qui n'est pas du tout dramatique, qui n'est pas du tout urgente, qu'il faut traiter, qu'on peut traiter sereinement. On a aujourd'hui l'annonce d'une réforme rapide et brutale, donc qui correspond pas à l'état de la situation des systèmes de retraite. Et puis le deuxième élément, c'est que la CFDT avait dit que pour toute réforme des retraites, il fallait pas toucher aux paramètres de l'âge parce que c'est le paramètre le plus injuste. Or, le président de la République avait annoncé qu'il voulait décaler l'âge à 65 ans. Finalement, le projet présenté par Elisabeth Borne, c'est une réforme des retraites qui repousse l'âge légal à 64 ans et qui accélère l'augmentation de la durée de cotisation. Donc on se retrouve avec l'élément que la CFDT ne souhaitait pas, et donc on va appeler les salariés à se mobiliser pour s'opposer à cette réforme.
Alors, Lou Pineda, sur l'âge de la retraite qui est évoqué par Yvan Ricordeau, qu'est-ce qu'a présenté Elisabeth Borne précisément?
Mais c'était en effet le scénario privilégié par le gouvernement. L'âge légal de départ à la retraite passera en effet à 64 ans en 2030 contre 62 ans actuellement. Ce changement se fera progressivement à partir du 1er septembre 2023 au rythme de 3 mois supplémentaires par an, et les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 seront les premières concernées par cette réforme.
Pour vous, c'est inacceptable ce premier élément, hein, Yvan Ricordeau.
Oui, tout à fait. C'est inacceptable pour la CFDT parce que ça ne va toucher que certains salariés, plus fortement certains salariés. C'est les salariés qui ont travaillé, commencé à travailler le plus tôt. C'est les salariés qui ont les carrières les plus modestes. Et donc, c'est les salariés qu'on appelle les salariés de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire. C'est des ouvriers, c'est des femmes qui travaillent dans l'aide, dans les services aux autres, et donc qui ont des carrières qui sont pas toujours des carrières très dynamiques, malheureusement. Et c'est ces salariés-là qui vont être le plus impactés par la réforme des retraites. C'est particulièrement injuste.
Sébastien Ley est avec nous, donc il est économiste à l'Institut Thomas Moore, je l'ai dit, c'est un think tank libéral conservateur. Votre position, elle est quand même plus mitigée, j'ai l'impression, Sébastien Ley. Vous dites, cette réforme, elle est nécessaire, elle est indispensable, même s'il faut prendre en compte quelques aspects autour de la pénibilité, des carrières longues, mais vous pensez qu'elle est indispensable, vous?
Mais je crois qu'à propos de cette réforme, on parle de tout sauf de l'origine de la réforme. Et c'est ça le sujet. Je me suis déjà exprimé à ce sujet en disant qu'elle est peut-être nécessaire, on va voir dans quel cadre, mais elle n'est certainement pas suffisante et surtout elle n'est pas structurante. J'entendais les propos de Mme Borne, elle a rappelé le déséquilibre démographique qui est réel, mais quand même, la réforme qu'elle propose ne permettra pas de solutionner ce problème-là. Donc la genèse de la réforme, à mon avis, elle ne vient pas uniquement du système de retraite en tant que tel, mais du système social. mais plutôt du cadre de nos finances publiques. Le véritable sujet, c'est qu'en fait, ils font une réforme pour adresser un signal à Bruxelles. Depuis la sortie de la pandémie, nous n'avons pas été capables de restaurer un petit peu un cadre plus vertueux de nos finances publiques. Il y a quand même des budgets récents qui ont été encore votés en déficit à 5% du PIB avec une prévision de croissance 2023 qu'on ne va certainement pas tenir d'ailleurs à 1%. Et je crois que peu d'observateurs ont noté qu'en fait, cette réforme des retraites, et ça je le déplore, c'est un peu une sorte de marqueur symbolique et un message envoyé à Bruxelles. Alors oui, sur le long terme, il faut faire quelque chose pour notre système des retraites parce qu'il y a un déséquilibre démographique. Mais cette réforme-là, finalement, elle ne va pas solutionner le problème, elle ne va pas si loin que ça. C'est pas vraiment, le gouvernement la présente comme sa réforme. Encore une fois, c'est un marqueur symbolique et politique. Mais en réalité, il s'agit plus de l'accélération des réformes précédentes, et notamment de la loi Touraine. Hein. On va fêter les 10 ans de la loi Touraine bientôt, même si sa pleine application, elle date de quelques semaines avant la pandémie. Et donc, on continue un petit peu, voilà, c'est les réformes avec effet de piqué, la réforme paramétrique. On est toujours dans la même continuation. Le problème, c'est que tous les 5 ans, on se retrouve à rediscuter d'une autre réforme des retraites et on a toujours les mêmes déséquilibres du système.
Mais Sébastien Ley, moi j'entends, ce que vous dites est quand même très important. Vous dites, de mon point de vue, c'est plus un message à Bruxelles que nous envoyons qu'une réforme devait se concentrer essentiellement sur la dimension de notre système de retraite par répartition. Vous dites aussi, on fait cette réforme parce qu'on a laissé filer nos budgets, donc avec le quoi qu'il en coûte notamment, mais avec des dépenses peut-être publiques qui sont trop importantes, et du coup on veut compenser avec cette réforme des retraites. Donc quelque part, vous êtes sur une ligne qui dit, un peu comme le corps le dit, il faut quand même le rappeler, parce que le corps a mis des options sur la table, et parmi quelques options, le corps a indiqué que cette réforme, économiquement, n'était pas indispensable, et qu'on pouvait avoir un système de retraite par répartition, si on se cale et si on se penche que sur ce système, qui pouvait tenir, voire s'équilibrer, même si aux horizons de 2030, on pouvait avoir un creux qui est un déficit, mais que tout ça était quand même très incertain, parce que lié aussi à la conjoncture économique, à la question de l'emploi et des cotisations potentiellement qui pouvaient rentrer dans notre système. Donc, est-ce que vous estimez, vous, là aussi, comme certains le font, que cette réforme, économiquement parlant, on pouvait s'en passer dans un contexte social et économique très tendu pour les Françaises et les Français?
Alors, démographiquement parlant, parce qu'on a quand même de moins en moins d'actifs capables de supporter nos retraités, à un moment donné, il va falloir quand même se poser la question de l'équilibre du système. Par contre, économiquement, comptablement, là, pour les deux prochaines années, effectivement, il n'y avait pas le feu. Sauf que, avec cette réforme des retraites, ils espèrent récupérer à peu près 17-18 milliards d'euros par an, hein, à l'horizon 2030. Ça permet de gagner un petit peu sur les finances publiques, même si, quand même, et là, on reparlera aussi de la grogne sociale, on a quand même dépensé beaucoup plus avec le quoi qu'il en coûte, avec le bouclier budgétaire et tarifaire précédemment. Et donc, même cet effort-là qu'on demande aux Français, en réalité, rien qu'avec le promesse 2023, on l'a déjà mangé. Donc, il y a très peu de rationalité économique derrière cette réforme. Moi, je pense que, honnêtement, en tant qu'économiste, je suis plutôt modeste quand je m'exprime sur le sujet, je pense que les véritables marqueurs de la réforme, ils sont politiques et symboliques. C'est d'abord pour Emmanuel Macron de dire, voilà, ma grande réforme des retraites, je vous l'avais annoncé, je vais la faire. Quand bien même ça n'a rien à voir avec ce qu'initialement il avait annoncé, hein, il devait faire une réforme systémique qui aurait été plus ambitieuse. Là, vous aurez pu discuter du sujet en vous disant bah, peut-être qu'il demande des efforts avec la retraite par points, etc. Mais il y a une véritable solution finalement au dysfonctionnement, notamment de ce déséquilibre démographique et financier pour le financement de notre système de retraite. Or, c'est pas cité, il se place dans la foulée des précédentes réformes et il envoie des messages un petit peu de tout début, mais très timide, hein, de potentielle orthodoxie budgétaire à Bruxelles.
Alors, Yvan Ricordeau, qui est secrétaire national à la CFDT en charge des retraites, Sébastien Ley, qui est économiste à l'Institut de Mamour, institut think tank libéral conservateur, je l'ai dit, qui est implanté à Bruxelles, à Paris. Je vais vous faire réagir sur quelques aspects de cette réforme présentée par Elisabeth Borne. D'abord, Lou Pineda, sur la durée des cotisations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire cette réforme prévue par le gouvernement?
Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra dès 2027 avoir travaillé 43 ans. Concrètement, pour toucher une pension complète, les travailleurs nés à partir du 1er septembre 1961 devront désormais avoir cotisé 42 ans et 3 mois durant leur carrière contre 42 ans actuellement. Les travailleurs nés en 1965 seront les premiers à devoir cotiser durant 43 ans. Il sera toutefois possible de bénéficier d'une retraite à taux plein à partir de 67 ans, même sans avoir cotisé l'ensemble des trimestres requis.
concernant les régimes spéciaux, que nous a dit Elisabeth Borne?
Mais c'est la fin des régimes spéciaux, Karim, car la plupart seront fermés. Seront notamment concernés les nouveaux embauchés à la RATP, la SNCF, dans les industries électriques et gazières, à la Banque de France. La liste est encore un petit peu longue. En revanche, les régimes autonomes, professions libérales et avocats, et ceux très spécifiques comme les marins, l'Opéra de Paris, la Comédie française, eux, continueront d'exister.
Et sur les contreparties à caractère, j'allais dire, un peu social, de dimension sociale, par exemple, la pension minimum va-t-elle être augmentée?
C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, en effet, maintes fois martelée. Le gouvernement augmentera bien le minimum de pension de 100 euros par mois pour les personnes qui partiront à la retraite à partir du 1er septembre 2023. Les petites pensions vont donc être valorisées à 85% du SMIC, soit environ 1200 euros net pour les futurs retraités ayant une carrière complète. La mesure sera étendue aux actuels retraités. Près de 2 millions, a priori, de petites retraites vont être augmentées.
Yvan Ricourdeau, est-ce que ce marqueur que vous avez posé comme étant, je dirais, inéluctable à une discussion possible, l'âge de départ à la retraite, qui a été, je dirais, dépassé par le gouvernement, puisqu'il ne vous a pas entendu à ce niveau-là, la durée des cotisations qui passerait à 43 ans, 44 pour certains, hein, attention, qui commencerait très tôt. Là aussi, on sent qu'il y a une forme de, je dirais, d'ambiguïté, parce qu'on a eu un tableau qui nous a été transmis par le gouvernement. Quand on commence à 14, 15, 16, 17 ou 18 ou 19 ans, donc finalement, c'est 44 ans et pas 43 ans. Est-ce que ces marques de rigueur posées par le gouvernement, est-ce qu'elles sont compensées pour vous par une approche que je qualifierais de plus sociale, à savoir la prise en compte de la pénibilité, de la pension minimum et de l'effort qui est à faire sur l'emploi des seniors, ou du côté de ces contreparties, vous estimez que le compte n'y est pas, qu'on ne va pas assez loin?
Clairement, pour la CFDT, le compte n'y est pas. La réforme est complètement déséquilibrée. On peut la résumer ainsi. L'élément très fort, toute l'économie de la réforme repose sur le décalage de l'âge et l'augmentation de la durée de cotisation, ce qui provoque l'opposition de la CFDT. En face, il y a quelques amortisseurs. Alors, c'est présenté par le gouvernement comme des mesures de justice. Mais en fait, ce ne sont que des amortisseurs qui prennent en compte le report de l'âge légal pour tout le monde, en disant, pour certaines populations, il faut effectivement un peu amoindrir la facture. Donc, c'est un élément qui est globalement quand même pas un élément de progrès, c'est un élément qui permet d'adoucir certains éléments brutaux de la réforme. Donc là, c'est les éléments autour des carrières longues et de la pénibilité. Puis, il y a un autre volet sur est-ce qu'il y a de l'ambition sociale sur d'autres éléments sur le système de retraite. Et là, effectivement, le compte n'y est pas du tout. Sur l'emploi des seniors, le marqueur très fort, c'est la question de l'index. Donc, personne ne croit raisonnablement qu'un index va modifier la qualité de l'emploi des seniors.
Expliquez, Yvan Ricourdeau, qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs, l'index?
Un index, c'est des critères qui, pour l'instant, sont très peu lisibles. Ils ne sont pas expliqués dans le projet de loi tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est des critères qui vont être fixés aux entreprises pour mesurer la qualité de l'emploi des seniors dans leur dernière partie d'activité. Donc, les taux d'emploi, les rendez-vous RH, le fait qu'il y ait peu de suppressions de contrats de travail dans la dernière partie d'activité. On imagine qu'il y aura des critères comme ça qui vont permettre de mesurer si les entreprises se comportent.
Est-ce qu'il y a des contraintes pour les entreprises qui se comporteront mal?
Et donc, du coup, ce que regrette la CFDT sur la fixation de cet index, c'est que normalement, il faudrait de la négociation à l'intérieur de chaque entreprise pour faire en sorte d'embarquer les dispositifs d'emploi de temps partiel senior, de retraite progressive, sur lesquels les entreprises peuvent soutenir les salariés pour baisser leur intensité de travail dans la dernière partie d'activité et partir plus facilement à la retraite, de façon plus douce, quoi, qu'on arrête le système français de « je suis obligé d'aller jusqu'à 100% de travail jusqu'à la veille de ma retraite et le lendemain je suis à 0%. » Cette rupture-là, on pourrait la faire de façon beaucoup plus douce et ça passe par du dialogue social. La réponse du gouvernement, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés, c'est-à-dire que ça va toucher qu'une minorité de salariés. Il n'y a que 39% des salariés qui sont dans ces entreprises-là. Donc ça embarque pas l'ambition sur l'emploi des seniors et sur la question des minimums de pension. La CFDT a beaucoup poussé pour revaloriser les minimums de pension. On a une réponse qui va plutôt dans le bon sens, puisque les pensions minimums vont être portées à 1200 euros bientôt, à 85%.
Pour tous les retraités?
Pour les retraités qui vont partir à la retraite pour l'instant. Bon,
les retraités actuels bénéficieront-ils de cette mesure?
Dans le projet de loi, non. on a commencé à comprendre, mais ça, il faudra que ce soit confirmé au Parlement, que les débats parlementaires pourraient intégrer les retraités actuels.
Bon, Yvan Ricordo.
Les futurs retraités.
Yvan Ricordo, Sébastien Ley, je vous propose de rester avec nous. Il y a une petite pause parce qu'on va terminer l'émission avec vous. Donc, après cette pause de quelques minutes, et on aura Faouzi Lelouch, qui est un ancien gilet jaune peut-être toujours actuel selon lui, qui vit à Sevran et qui est directeur de structure socio-éducative et qui pense, lui, qu'il y a un mouvement social de grande ampleur qui peut émerger dans le pays. À tout de suite, messieurs, petite pause et on revient vers vous.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour dans Les Engagés pour la dernière ligne droite de notre émission. On a décidé d'évoquer la réforme des retraites qui a été présentée par Elisabeth Borne, une réforme qui fait grincer beaucoup de dents du côté des syndicats. On a la CFDT avec nous aujourd'hui, Yvan Ricordo, qui est secrétaire national en charge des retraites pour la CFDT. On a Sébastien Ley, qui est un économiste à l'Institut Thomas Moore, qui est un think tank libéral conservateur basé à Bruxelles, à Paris. Et on a Faouzi Lelouch, qui est avec nous. Faouzi Lelouch, qui est un gilet jaune, qui est directeur de structures socio-éducatives, culturelles et sportives. Il est originaire de Sevran. Bonjour Faouzi.
Oui, bonjour Karim, bonjour les auditeurs.
Merci d'être avec nous Faouzi, vous êtes un gilet jaune de la première heure. Notre question c'est, est-ce que cette réforme des retraites va être la goutte qui fait déborder le vase après l'augmentation des prix, la difficulté des Français face à l'inflation, donc l'énergie, les loyers, les ressources de première nécessité, les aliments dans les grands supermarchés et autres. Les Français n'en peuvent plus, 50% d'entre eux ne partent plus en vacances, donc il y a une situation qui devient quasiment intenable. Vous pensez que ça augure d'un mouvement social important? Il y a une grève jeudi 19 janvier, un appel à la grève porté par les syndicats, mais aussi des indépendants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben, je pense qu'effectivement, hein, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Le souci, c'est que si l'ensemble des Français et des citoyens de ce pays n'avaient que ce problème des retraites, la plupart d'entre eux, aujourd'hui, vu la crise économique et vu la crise pour prétendre à pouvoir vivre au quotidien et avoir un travail et un salaire, arriver déjà jusqu'à la retraite, déjà compliqué. En plus, il y a eu beaucoup de manifestations toute cette année concernant le fait que les gens n'avaient pas assez de revenus et il y avait toujours plus à payer, toujours plus de charges. On a pu le voir sur le prix des carburants où 60% du prix, par exemple, d'un litre de gasoil, c'est des taxes. Donc, ça voudrait dire que, par exemple, là, on paye un litre à 2 euros, on devrait le payer que 80 centimes, tout le reste revient à l'État. Et on a l'impression aussi que cette mesure, elle se rajoute par rapport à toutes les autres, qui est injuste pour l'ensemble des citoyens qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui voient qu'ils auront travaillé toute une vie, cotisé, comme ils ont pu, en essayant de dépatouiller un petit peu dans les différents postes qu'ils auront pu avoir d'une vie entière et pas réussir à la fin, au moment où ils sont le plus faibles, au moment où ils auront besoin un petit peu de se poser, de se reposer et de voir venir, de profiter un petit peu de temps, de ne pas y arriver, de ne pas manger. C'est déjà le cas de faire des choix entre se chauffer et manger.
Faouzi,
oui.
Vous serez dans la rue jeudi?
Ah, exactement, on sera dans la rue jeudi, mais on était déjà le premier appel de janvier, ça a été lié par un appel citoyen, parce qu'il était important que ce soit les citoyens qui appellent, et derrière chaque étiquette, il faut savoir qu'il y a un citoyen. Et donc aujourd'hui, il faut mettre les étiquettes de côté et se dire que c'est pour le bien commun qu'il faut se battre. Et aujourd'hui, il y a eu un appel. Il y a eu un appel du 19, il y a eu un appel du 24, différents organismes. Il y a les syndicats qui ont appelé. Il faut savoir que les syndicats aujourd'hui ont la capacité à pouvoir bloquer le pays dans les entreprises. Je pense que le gouvernement n'a pas conscience de l'état de situation de l'ensemble des Français sur lequel aujourd'hui il n'y arrive plus. Et je pense que ça c'est quelque chose où les gens comprendront. Il faut voir qu'il risque d'y avoir des blocages dans tout ce qui est transport des personnes, transport des marchandises, et ça c'est le plus grave. Il pourrait y avoir aussi des problématiques encore de pénurie d'essence. Nous on se posait la question, pourquoi les syndicats ont encore choisi de poser des grèves en semaine, alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, bah, on comprend si maintenant il y a des gens qui sont contraints de ne pas pouvoir aller au travail par des blocages, aussi bien de transport ou quoi, il est évident qu'ils pourront aller manifester. Donc, et il y a un gros appel aussi le samedi 21. Donc j'invite moi tous les citoyens, avant d'être en quartier ou quoi que ce soit, à venir manifester juste pour pouvoir dire non à cette politique qui est menée et qui est, à mon avis, depuis 6 ans.
Yvan Ricordeau. Yvan Ricordeau. Quand vous entendez Yvan Ricordeau, quand vous entendez Fauzi, qui nous dit pourquoi les syndicats appellent à faire grève le jeudi. Ça peut gêner d'abord ceux qui vont travailler et qui ne veulent pas faire grève, et c'est quand même un droit aussi pour eux. Et ça ne permettra pas de mobiliser grandement parce qu'il y a des gens qui seraient venus le samedi donc, dans une grande manifestation populaire. Vous appelez avec la CFDT à manifester jeudi pour faire reculer le gouvernement. Est-ce que le jour est bien choisi? Est-ce que le moment est bien choisi? C'est important quand même de créer aussi un contexte qui permet à ceux qui sont mécontents de venir rejoindre le mouvement.
Oui, tout à fait. J'entends deux choses dans l'expression de Fauzi et que je partage les éléments d'illustration qu'il dit par rapport à l'opposition à la réforme des retraites. On l'a dit très clairement à la Première ministre, au ministre du Travail, il y a aujourd'hui de la colère sociale. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises ces derniers mois sur les questions d'assurance chômage, sur les questions de retraite aujourd'hui, qui sont des mesures de diminution de droits. Et on est dans une période de tension où il faut donner de la perspective, il faut donner des éléments de progrès. Et c'est là-dessus que la CFDT souhaite mobiliser les salariés pour empêcher cette réforme des retraites. Et donc, du coup, sur la question du choix de la date, ce que dit la CFDT, c'est tous les moyens sont importants pour mobiliser les salariés. On va faire des grosses campagnes de communication, d'argumentation pour décrypter la réforme et expliquer en quoi il y a d'autres solutions possibles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a mis en ligne au niveau intersyndical une pétition sur le site change.org qui a en 2 jours a réuni plus de 225 000 signatures déjà. Et donc, c'est vraiment un levier important pour montrer l'opposition. Et puis, on va appeler à des journées de mobilisation des salariés. Alors, les organisations syndicales, elles ont l'habitude de mobiliser les salariés sur leur lieu de travail pour montrer les oppositions. Donc, c'est pour ça que la première date, elle est sur une semaine. Mais la CFDT a été très porteuse dans la première réunion intersyndicale en disant il y a d'autres habitudes de mobilisation aussi, il y a des questions de pouvoir d'achat qui se posent. Et on a très clairement demandé à ce qu'il y ait des prochaines dates qui soient des samedis aussi, telles que le demande Fauzi. Et je suis assez d'accord avec lui. Il faut permettre une mobilisation très large. Et pour la mobilisation très large, il faut avoir un panel de réponses. Et dans ces réponses-là, il y a des manifestations le week-end aussi à organiser.
Sébastien Ley, économiste d'un think tank qui se définit comme étant libéral conservateur, comment vous percevez ces mouvements sociaux? Vous dites la France c'est la gréviculture, ou vous dites non, je peux comprendre la colère, la désespérance et l'exaspération. Vous avez 30 secondes pour nous répondre parce que...
Ah, l'histoire économique récente de notre pays montre que les réformes des retraites n'ont pas le potentiel de créer des mouvements sociaux massifs. Hein. C'est pas la loi de Touraine qui a créé le mouvement des Gilets jaunes. Par contre, c'est vrai qu'il y a un contexte un peu différent cette fois-ci, qui est la conjonction entre cette réforme des retraites, qui peut apparaître comme brutale pour certains, et les problèmes de pouvoir d'achat. Donc sur la base des problèmes de pouvoir d'achat, et c'était déjà le sujet sous-jacent des Gilets jaunes, on peut avoir à nouveau des mouvements sociaux, mais un mouvement social purement, si vous voulez, gouverné par les syndicats et uniquement en réponse à la réforme des retraites, je peux vous donner rendez-vous d'ici 2 ou 3 semaines, ça sera un échec.
Merci monsieur l'économiste Sébastien Ley, merci Yvan Ricordeau, secrétaire national à la CFDT en charge des retraites, merci Fauzi Lellouche, citoyen engagé, gilet jaune, directeur de structures socio-éducatives, culturelles et sportives à Sevran, merci messieurs donc de votre participation dans les engagés à Beurre FM. Belle continuation à vous, on va suivre ce que va donner ce mouvement du jeudi 19 janvier puisque le lendemain, le vendredi 20, nous aurons une émission des engagés où notre invité sera Stéphane Tapie, le fils du grand Bernard Tapie. Dès que Stéphane Tapie sort un ouvrage, il sera avec nous, on traitera tous les sujets d'actu. Merci Zora, merci Lou, merci Faudil, merci de votre fidélité, de vos messages, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à être fidèles à Beurre FM, donc on est très heureux. Donc cette émission, c'est la vôtre, elle est faite pour vous. Et on essaie à chaque fois, toutes les semaines, de vous gâter encore un peu plus avec des invités de qualité. Voilà, merci, belle semaine, bon week-end. Donc à très vite, bye bye.
Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.